Chers auditeurs, chères auditrices de Mai de Résistance 88.4, Radio Galère et Radio Mono, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui une nouvelle émission sur l'Afrique. Nous allons aujourd'hui parler des limites du développement local. La dernière fois, nous avions évoqué la question de la gouvernance et parlé de l'aspect moral et éthique qui engage les gouvernements à se responsabiliser. Cela dit, il y a des limites au développement local parce que les territoires sont encore fragiles en Afrique. Le mouvement de développement du local se généralise. Le mouvement est engagé, mais il y a des inégalités entre les pays en fonction de leur situation politique. Je pense au Niger, au Mali, au Rwanda et au Burundi qui sont des pays fragiles politiquement. Des menaces d'éclatement politique liées à des rivalités ethniques sont constantes. On le sait bien, on a bien vu ce qui s'est passé dernièrement au Mali et au Niger avec des coups d'État. Parfois, les services déconcentrés ne sont pas présents aux bons échelons. Parfois, les compétences des États ne sont pas assez étendues, même si certains pays font des efforts. Par exemple, en Ouganda, on a fait l'effort de former le personnel des administrations centrales, qui est maintenant intégré aux collectivités locales. Mais c'est récent. Il y a des difficultés de la part des services de l'État à se dégager de leurs anciennes prérogatives. Souvent, en matière de politique sectorielle, l'État fait tout seul et mène des programmes sans les consulter. Selon l'Institut de recherche et d'application de méthodes de développement, c'est le cas au Mali avec l'éducation ou la santé. Et là-dessus, je rétorquerai en disant que c'est vraiment pas facile pour le pouvoir central de travailler de concert avec les pouvoirs locaux, et même dans les pays développés, puisqu'on voit bien qu'en France, c'est souvent très difficile pour les différents ministères de travailler en coopération étroite, aussi étroite qu'il le faudrait, avec les organismes déconcentrés et encore pire, avec les organismes décentralisés. C'est-à-dire que l'architecture des rapports entre ces pouvoirs est mal conçue, et ce qui fait que souvent, en menant des politiques au niveau central, on se trompe parce qu'on est trop généraliste et on ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui se passe réellement en local, alors qu'il y a beaucoup d'experts qui sont présents au niveau local et qui pourraient aider à être beaucoup plus efficaces et plus compétents. En Afrique, c'est encore pire. Parfois, il y a des incohérences entre niveaux institutionnels. Ainsi, les programmes locaux et nationaux ne sont pas toujours harmonisés, tandis que les services déconcentrés, habitués à se décider, vivent mal leur nouveau statut de conseiller. On constate des problèmes de ressources humaines et financières. Il y a un malaise général en ressources humaines, peu d'agents de maîtrise ou de conception, peu formés encore, surtout en milieu rural. Beaucoup d'absentéisme, les fonctionnaires nommés ne vont pas à leur poste, le détachement est mal perçu et les recettes sont souvent très difficiles à percevoir. Il y a des retards dans la fiscalité partagée de la part de l'État, de la part des versements et une pauvreté des ressources pour les collectivités locales lorsque ces dernières ne sont pas versées d'abord à l'État qui prend son temps ensuite pour effectuer le reversement. Les politiques urbaines sont donc dans une situation d'impasse. Des politiques urbaines volontaristes ont été bloquées par des politiques issues de la crise économique, mais si on témoigne d'une évolution lente, confrontée à un processus qui tarde, des lenteurs, des retards, des blocages. Ces derniers sont dus à trois causes. État, financement des collectivités locales, indécision des opérateurs d'aide au développement. avec des portes d'entrée différentes selon la nature des opérateurs, société civile, institutionnelle, centrale ou locale. Pour les pouvoirs locaux, chaque porte d'entrée est une culture. La société civile pour les ONG, l'État pour les Nations Unies et les collectivités locales pour les collectivités locales. Cette tendance évolue. Cette optique de chaque type d'institution à sa porte d'entrée doit primer lors du rassemblement lié aux accords de l'Organisation des États indépendants et autonomes sans qu'il ne soit donné priorité à aucune perspective. C'est un peu comme si on mélangeait un forum social mondial avec une réunion des chefs d'État, ministres, fonctionnaires onusiens et représentants des villes et villages du monde entier. Donc j'explique ce que c'est que l'OIA, l'Organisation des États indépendants et autonomes. C'est un concept qui n'a pas été encore réalisé, qui consisterait à créer une organisation mondiale qui soit parallèle à l'ONU, un peu comme l'LOIV, l'Organisation internationale du vin, mais cette fois-ci elle porterait sur le développement dans les pays du monde. C'est très important de comprendre ce que c'est exactement. En fait, l'OIA, c'est ni plus ni moins qu'une tentative de la part de la société civile à travers ses ONG et ses associations de tout niveau, du plus local au plus global, de créer une nouvelle plateforme qui permettrait de prendre des décisions et qui inviterait les États à venir signer des accords permettant plus d'égalité sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan socio-culturel. Cette organisation des États indépendants et autonomes pourrait être créée à l'initiative de la France au nom du rôle qu'elle a pu jouer dans les colonisations et les guerres de décolonisation, puis à travers les rapports entre la France et l'Afrique. Elle ne serait pas concurrente à l'ONU, elle lui serait complémentaire, simplement, ça permettrait à la société civile d'avoir davantage d'écoute au niveau international et de pouvoir proposer elle-même ses projets aux États qui veulent bien accepter de signer des accords en son nom. C'est un peu, comme je vous disais tout à l'heure, comme si un forum social mondial devenait officiel. C'est un concept que j'ai plus ou moins inventé, mais qui pourrait à terme porter ses fruits si on l'écoutait, si on essayait de le mettre en œuvre. Ce qui demande une certaine organisation et ce qui demande de la part des différents États parties prenantes d'être à l'écoute, bien entendu, de la société civile, ce serait un nouveau moyen. De pratiquer une gouvernance qui soit un petit peu plus éthique et responsable. Quels sont les enjeux futurs du développement africain? La perspective importante qui est au centre des préoccupations est la question territoriale, tout d'abord. C'est une problématique mondiale. Ce qui change avec l'Afrique, c'est le problème de la grande pauvreté. L'emploi est une question centrale pour la valorisation des filières économiques et la spécificité territoriale des moyens de production. Il y a trois pistes d'action. Forme d'aide et d'accompagnement que la coopération internationale doit prendre en compte. Rôle de l'accompagnement des plus pauvres dans une perspective de développement territorial. Nécessité de l'approche socio-anthropologique du local. Il faut associer recherche et expertise pour permettre une meilleure compréhension des territoires et améliorer l'aide à la décision. C'est l'approche territoriale qui prime avant tout. Cette dernière n'est cependant pas sans poser quelques problèmes avec une approche souvent segmentée et une difficile inscription dans le long terme. Une réflexion sur le développement économique souvent inaboutie alors qu'indispensable dans un contexte de grande pauvreté. Mais confrontés à l'expérience, les auteurs de terrain commencent à comprendre la nécessité de mettre au point de vrais projets de territoire. Les règles sont les suivantes. Petit 1, toute initiative doit être intégrée dans une logique d'ensemble avec une articulation entre les axes d'intervention, social, éducation, santé, un centrage sur les activités économiques, l'emploi est la priorité avant toute autre considération, un emboîtement des échelles, les plans locaux de développement doivent s'emboîter dans les projets nationaux, et des développements participatifs qui doivent être adaptables. Ils ne doivent pas produire de normes rigides. Dans ce cadre, la démarche tâtonnante de M. Avenier, mise en avant par André Rozon-Vallon dans la gestion des OPAD, publiée en 2011, est tout à fait pertinente. C'est-à-dire que on ne produit pas de normes rigides, on pratique ce qu'on appelle une démarche tâtonnante et on règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et ça, et s'ils apparaissent, grâce à la confrontation avec les populations locales et la tentative de les faire participer elles-mêmes à leur propre projet de développement. C'est une démarche constructive. Et c'est ça a un rapport direct avec, bien sûr, la démocratie participative. C'est un bon moyen également d'exercer les populations locales à la démocratie participative et donc à les impliquer davantage dans la gestion du politique, que ce soit au niveau très local ou au niveau national. Petit 2, on doit mettre en avant une dimension intégrée des projets dans une logique de long terme. Et les cadres logiques doivent évoluer et s'adapter à la démarche participative. Cette dernière doit être régulièrement remise en cause sur le long terme. Le cycle du projet doit s'adapter au contexte et se remettre sans cesse en question, et toute sortie de projet doit être inscrite dans un continuum. Il faut trouver des instances qui prennent le relais sur place. Petit 3, de nouveaux partenariats doivent être mobilisés, public-privé, associations philanthropiques. Cela permet d'apporter des moyens humains et financiers nouveaux et inscrit la démarche dans une dynamique plus globale. Par exemple, on peut penser au mécénat public ou privé en matière de développement artistique et culturel. Petit 4, il convient de privilégier le co-développement et la mobilisation des diasporas émigrées au nord, ainsi de la coopération française, pour susciter une dynamique spontanée sud-nord. Penser et repenser l'action de ces diasporas en prenant en compte les spécificités culturelles de chacun, sans oublier de rester dans une démarche anthropologique et historique. Je cite ici l'exemple de deux associations très importantes en matière de résilience migratoire et immigratoire. Je pense à l'association Red Athéna et à la fondation Franz Fanon. Celles-ci ont un rapport direct avec les immigrations qui ont eu lieu à l'époque aux immigrations, d'une part en ce qui concerne la fondation Franz Fanon, celle très ancienne issue du commerce triangulaire, je pense notamment aux États-Unis, mais et ainsi que la fondation Red Athéna qui elle s'occupe davantage des immigrations plus récentes, celles qui ont eu lieu au milieu du XXe siècle. En France, aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe, la Red Athéna, c'est une association très importante qui s'occupe, qui traite de la résilience de ces populations immigrées qui n'ont pas toujours été bien accueillies dans les pays d'accueil. Ça a été le cas des Italiens, des Espagnols, des Portugais dans les années 20 ou 30. En France, je prends l'exemple de la France, et après dans les années 50-60, ça a été le cas des populations immigrées issues d'Afrique du Nord. Or, toutes ces problématiques ne sont pas encore résolues. Loin s'en faut, en France, on a eu beaucoup de mal à les traiter de par la crise économique survenue à la fin des années 70. La Red Athéna s'occupe de créer de ces résiliences-là. Elle s'occupe de recueillir les témoignages, de faire parler les gens et d'essayer de faire émerger des solutions pour davantage d'inclusion des populations qui sont mises de côté dans la société d'accueil. Le travail qu'elles réalisent, ces deux associations, se fait dans une perspective anthropologique. Elle porte sur les conséquences de l'immigration pour la première ou de la colonisation pour la deuxième. Elle cherche à déceler les traumatismes présents chez les individus qui se sont ressentis victimes de ces deux phénomènes sociaux, à en retranscrire les histoires et à se servir des récits d'expérience comme support pour mieux guérir la sphère sociale de ces blocages. Oui, pour la Fondation Franz Fanon, je me suis un petit peu trompée. Effectivement, la Red Athéna s'occupe davantage de l'immigration des années entre les années 30 et 60, voire 70, et la deuxième s'occupe de la colonisation et des guerres de colonisation qui en ont découlé et des conséquences qu'elles ont eues sur les deux populations, celle du pays colonisateur et celle du pays colonisé. Et bien entendu, cette décolonisation s'est marquée aussi par un fait migratoire. Je voudrais juste dire que depuis, il y a d'autres associations qui ont été créées et qui sont très nombreuses, qui elles traitent davantage de la problématique liée aux réfugiés. Une problématique migratoire qui est davantage axée sur les migrations issues des années 2000 et suite à la venue en Europe de beaucoup de populations étrangères qui ont été obligées de quitter leur pays pour des raisons politiques et de sécurité ainsi que des raisons économiques. Et ça, c'est encore une autre problématique qui est venue s'ajouter à celle déjà existante, qu'on avait déjà du mal à régler. On se souvient de la marche des immigrés en 1980, au début des années 80, lorsque François Mitterrand et les socialistes ont été élus au pouvoir. Depuis, les problématiques ont encore beaucoup évolué sur un vieux fond de problèmes non réglés liés aux immigrations précédentes. Petit 5, seuls 4% de la population possède un compte en banque en Afrique. 1% ont contracté un prêt. La microfinance est une alternative possible en agriculture, mais elle se heurte à des obstacles. Une dispersion territoriale, des risques liés à l'activité agricole, une faible organisation des filières et peu d'habitude de se projeter dans le temps. Un manque de vigilance des institutions de la microfinance. Le résultat, que les organismes de microfinance diminuent les risques et sont donc en non-adéquation avec les réalités. En milieu urbain, par ailleurs, il existe peu de marchés compétitifs et innovants. Ce livre est intéressant, il est récent, celui de Pierre Rosanvallon. Il pointe des problématiques récurrentes du développement et inscrit l'aide au développement au sein d'un processus global et systémique pour lequel l'enjeu est de s'emparer de l'intérieur de la sphère de gouvernance à la place des gouvernements corrompus ou dictatoriaux. L'ouvrage de Pierre Rosanvallon décèle enfin trois enjeux majeurs. Premier enjeu, coordonner les actions et les projets entre eux afin de susciter une cohérence nationale qui part du territoire. Petit 2, améliorer le dialogue entre les types d'organismes d'aide au développement. Petit 3, celui de la formation. Il faut notamment former des experts communicants. D'ailleurs, je dirais que c'est Nietzsche, le philosophe, qui le premier a parlé de l'importance de la communication dans le développement et l'amélioration de la vie des sociétés, ainsi que les rapports des sociétés entre elles. C'est lui qui a parlé d'un expert en communication qui serait européen. Est-ce que, au sein de l'Union européenne, on a résolu ce problème-là et est-ce qu'on a réussi à mettre en œuvre le souhait de Nietzsche de former des experts communicants, c'est à voir entre États. Il convient de rester vigilant sur les partenariats publics-privés. Je parlerai de l'exemple de la fondation Bill Gates, afin de ne pas favoriser la mainmise insidieuse de la chose publique par la sphère privée. L'auteur a l'intelligence de mettre en avant le co-développement et la mobilisation des diasporas immigrés au Nord, phénomènes souvent occultés dans la recherche, alors qu'ils sont fondamentaux, on l'a déjà dit, lors des émissions précédentes. On citait alors l'exemple du village de Ashbarou au Maroc, est animé et qui s'est pratiquement entièrement développé grâce à des gens issus de la deuxième génération d'immigrés venus habiter en France habitant sur plusieurs pays, dans plusieurs villes, et notamment Saint-Étienne, qui ont ensemble qui ont formé une association nationale française dite Ashbarou. Alors il y a Ashbarou Saint-Étienne, puis Ashbarou sur les autres villes. Je crois qu'il y a deux ou trois villes au total. Et ce sont tous des jeunes dont les parents viennent du village de Ashbarou au Maroc. Et depuis plus de 20 ans, ils contribuent largement à développer le village de Ashbarou, qui est situé aux portes du Sahara, au sud du Maroc, en dessous de Meknès. Et ce village-là... s'est beaucoup développé et ça a créé des cercles concentriques qui ont contribué à développer le reste de la région et les autres villages alentours. En 20 ans, ils ont fait énormément. Il y aurait donc l'émergence d'une véritable dynamique spontanée sud-nord et nord-sud. L'auteur évoque également la notion de capacité, celle d'économie résidentielle. Il faut que les outils mis à la disposition des populations s'inscrivent autant que possible dans une démarche de développement et de valorisation des filières économiques basées sur les spécificités territoriales en appui à des systèmes de production localisés, les SPL. SPL, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, un système de production localisé, c'est un territoire dont le développement s'organise à partir de certaines, d'une ou deux spécialités économiques qui sont propres au territoire. Ce sont souvent des productions à caractère agricole ou artisanal, à valeur ajoutée importante, qui, si on les soigne, peuvent générer de l'activité économique en amont et en aval et constituer de véritables clusters. Et la condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait des échanges intra-régionaux au sein du même pays, puis avec les pays voisins, et puis par extension avec le reste du monde. Et ça peut être grandement facilité par la vente sur Internet. Enfin, l'auteur met en avant la question territoriale, devenue récurrente dans la théorie économique du développement, au nord comme au sud. Ce qui est intéressant dans la mise en valeur du développement territorialisé, c'est que les approches sont à peu près au même niveau en matière d'expérience au sud qu'au nord. C'est ce que j'avais dit dans une des émissions précédentes. Il y a lieu d'espérer un échange d'expériences sur un pied d'égalité dans la perspective d'une économie mondiale plus axée sur l'échange réel dont les pays du sud comme ceux du nord ont beaucoup à retirer. Et peut-être, nous le voyons plus bas, avec l'économie monétaire, d'économie de coopération de part et d'autre des rives de la Méditerranée, plutôt que de concurrence ou de domination. Enfin, on ne peut pas envisager l'analyse des économies et du développement africain sans se référer à l'économie informelle et aux nombreux mécanismes et circuits qui l'accompagnent. Cette dernière pourrait être qualifiée d'économie par défaut et éloignée des circuits de l'économie officielle, celle du marché cautionné ou couvert par l'État. Nous dirons ici les États, tant les mécanismes de gouvernance étatique sont submergés par les injonctions venues des pourvoyeurs d'aide publique au développement. Elles s'engouffrent dans des pans entiers de l'économie et de la société, négligées par l'abandon des politiques et des capitaux. Cette économie-là, c'est celle du peuple. Elle laisse entrevoir qu'un bel avenir lui est promis pour peu que le relais soit fait avec l'économie officielle, sans que cette dernière ne vienne en entraver le dynamisme par une réglementation ou un encadrement inadapté. Dans ce cadre, une approche d'économie territoriale du type École de Grenoble, je pense à Bernard Packer et Claude Courlet, qui ont écrit l'économie territoriale, paru aux presses universitaires de Grenoble en 2014, doublé d'une approche qualitativiste et d'une méthode d'analyse économique axée sur une transversalité des disciplines. Anthropologie, histoire-géographie, analyse environnementale, sociologie, économie, dans le sens de gestion domestique. Faisons appel par exemple à des travaux comme ceux de Karl Polanyi, La grande transformation en 1944. Celle-ci peut être utilisée à bon escient. Elle justifie la prise en compte, dans les nouveaux modèles économiques, selon un mode systémique, l'approche économique venant du Centre international de recherche sur l'aide au développement de Montpellier, de phénomènes d'échange nouveaux comme l'échange, le troc, l'utilisation des monnaies locales ou de substitution, qui ne sont pas concurrentes au fonctionnement des modèles macroéconomiques classiques et habituels, mais les complètent sans être pour autant la cible d'un phénomène d'absorption par l'État et le marché qui brise le phénomène d'innovation. Donc l'innovation peut être brisée par l'État ou par le marché lorsqu'il y a trop d'État ou lorsqu'il y a trop de marché. Donc là où on a toujours oscillé dans la théorie économique, celle des années 50, où on mettait d'un côté les soviétiques qui prenaient le collectivisme et le tout-État, et d'un autre côté le capitalisme qui lui prenait la régulation uniquement par le marché, on a trouvé une troisième voie qui est celle de l'économie territoriale qui elle permet de concilier les deux aspects avec un peu d'État, du marché, et sur du marché mais régulé par des instances étatiques ou subétatiques, je pense à l'Union européenne, qui fournit une réglementation qui est quand même assez intéressante sur ce sujet-là. Je pense notamment aux réglementations en matière agricole, ma pensée va tout entièrement vers un règlement qui est assez récent, qui est paru en janvier 2024, qui est le règlement sur les indications géographiques, donc les AOC et les AOC, AOP, ainsi que pour les vins, les indications géographiques protégées, mais aussi pour les autres productions agricoles, qui est un véritable synopsis de l'économie vertueuse et qui montre comment on peut mettre en avant les spécialités territoriales en matière agricole tout en les protégeant d'une concurrence trop accrue. Je vais maintenant, maintenant que je vous ai révélé cette troisième voie qui fait drôlement penser aussi la troisième voie que mettaient en avant les tiers mondialistes lors de Bandung en 1955. On parlait beaucoup d'économie de la troisième voie et l'idée d'une économie de la troisième voie avait été notamment lancée par Mao Tse-tung en Chine. L'idée de d'une économie qui irait au-delà du vieux clivage qui sévissait à l'époque entre l'Est et l'Ouest, avec le libéralisme d'un côté et de l'autre le collectivisme. Et cette économie-là de la troisième voie faisait se réveiller les États en état de sous-développement qui venaient de sortir de la colonisation en disant qu'il y avait une troisième solution et qu'un jour on arriverait à faire en sorte que cette troisième solution règne sur l'ensemble de l'économie mondiale pour le bien de tous, et notamment l'économie des territoires. Et donc on y revient progressivement grâce au développement des théories économiques territoriales. Je vais m'interrompre un petit moment pour mettre une musique, je vais vous laisser l'écouter et essayer de deviner de quoi il s'agit, et puis ensuite nous irons un peu plus loin en continuant à parler de l'économie africaine. À plus tard. Voilà. Reste, donc j'allais dire, j'ai cité tout à l'heure le CIRAD à Montpellier, c'est un organisme de recherche très important, et c'est lui notamment qui a développé la notion d'approche systémique, qui est une approche qui oblige le chercheur ou l'observateur d'un territoire africain ou d'une économie africaine à l'analyser sous forme de système global avec des éléments qui sont en interaction les uns envers les autres. Avec les autres. Il reste à déterminer le niveau de richesse, de valeur ajoutée et d'échanges produits et à le reporter au sein de nos grands indicateurs macroéconomiques. Puisque bien entendu, la macroéconomie et la comptabilité nationale telle qu'elle est faite aujourd'hui au niveau mondial et au niveau de chaque État, celle qui comptabilise le niveau de richesse par produit intérieur brut et produit national brut, ainsi que par revenu national brut, n'est pas faite pour tenir compte de l'économie informelle et également des économies territoriales. Et donc il faudrait revoir tous les systèmes de comptabilité nationaux pour y intégrer ces données-là, ces données locales. L'enjeu, mais c'est aussi le cas dans nos pays développés, est là, pour l'économie du XXIe siècle. C'est là que je disais que les États, que ce soit des États du Nord ou du Sud, doivent marcher main dans la main pour développer mutuellement leur territoire. Et ça, c'est très important de raisonner avec ce paradigme-là d'une égalité, avec une nécessité de continuer à faire de la recherche et pour pouvoir évoluer de concert et progressivement ensemble. Et non plus par domination des uns sur les autres. Cet enjeu pourrait avoir pour ambition de rompre avec la fatalité des effets liés au capital que Thomas Piketty nous montre dans son ouvrage « Le capital au XXIe siècle ». À la division internationale du travail classique, source des inégalités économiques, on pourrait donc substituer le partage d'un capital nouveau, sans cesse renouvelé. En conclusion, je dirais que dans son livret « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ?», le concept de colonialité est évoqué. Donc cet ouvrage est sorti il y a quelques années. C'est un ouvrage qui est fait par des auteurs africains, mais aussi français, des économistes, qui sont spécialisés dans l'économie monétaire et qui nous montrent à quel point il est important que les différents États, que ce soit au sud ou au nord, aient leur propre monnaie et soient autonomes sur le plan monétaire. Martial Zebelinga, un des auteurs africains et économistes qui a participé, qui a contribué à l'écriture de ce livre, parle très bien du concept de colonialité à la lumière de nos politiques monétaires dans la partie qui lui est consacrée dans cet ouvrage. Cette partie-là s'intitule « Institutions, France CFA, colonialiste, incohérence, accumulation prédatrice ». Et il nous dit « La capture historique des espaces de subsistance africains dans les processus d'accumulation occidentaux justifiera la pertinence circonscrite de thématiques internationales et en effet cela réduit considérablement à la fois le débat, le champ d'études, mais également l'infinité des possibilités en matière de production et d'échange qu'ouvrirait un autre système. Autrement dit, le débat sur les sociétés africaines est considérablement réduit par le confinement de ces dernières à la notion de colonialisme. Et d'ajouter, si l'enjeu d'une production endogène d'un imaginaire propositionnel africain devait s'imposer, il paraîtrait évident que l'expérience économique et monétaire des civilisations africaines, les savoirs locaux des peuples, prendrait une valeur apodictique. Apodictique, ça veut dire universel et nécessaire. Donc, l'expérience économique et monétaire des civilisations africaines, qui date d'il y a très longtemps, je pense aux kauris, c'est-à-dire ces coquillages qui, en Afrique de l'Ouest, contribuaient aux échanges dans l'ancien empire du Mali, c'était la monnaie d'échange, eh bien, les savoirs locaux de cette issus de cette histoire prendraient une valeur universelle et nécessaire à la construction des économies monétaires africaines d'aujourd'hui. On le voit dans l'importance que prennent les économies frugales et informelles dans la fabrication et le partage des ressources sur le plan local. L'utilisation ici de ce terme d'apodictique fait allusion subtilement à cette apocalypse tant annoncée, qui n'est pas autre chose qu'une grande transformation au niveau mondial, autant économique, je pense à Karl Polanyi, que culturelle ou humaniste et civilisationnelle. On devrait ici utiliser en tant que concept clé servant d'instrument de maturation psychique collective, en même temps que pilier d'action collective et concrète, le terme de décolonialité comme processus de travail de maturation à long terme sur la sphère sociale. C'est ce à quoi œuvrent les associations, comme toutes ces associations qui se sont créées suite au phénomène, au mouvement des réfugiés en Europe, ou encore, et c'est le cas encore aujourd'hui, à la Red Athéna ou à la Fondation Frantz Fanon. Ce terme fait appel à la colonialité, mais en son sens contraire, celui de décolonialité. Il s'agit de faire le chemin inverse, et cela ne peut pas être possible sous l'égide du franc CFA, ni d'une quelconque monnaie unique qui reproduirait la colonialité sous d'autres formes, celle qu'induit la monnaie. Je pense là à ce projet de monnaie unique d'Afrique de l'Ouest, duquel on parle en ce moment. La colonialité sous d'autres formes, c'est celle de la domination des pays anglophones, notamment les États-Unis, via deux ou trois États forts triés sur le volet, dominant leurs voisins africains proches, comme peut le faire l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Je pense ici au Nigeria notamment. C'est ici qu'à Martial Zabelinga nous laisse entrevoir derrière ces quelques mots d'économiste, mais cela est dû à l'introduction de nouvelles formes de pensée économiste transversales et pluridisciplinaires, empruntant notamment à l'anthropologie, l'immense corne sans fond de richesse que la barrière des matières, des mécanismes d'accumulation occidentaux, historiques, symboliques, économiques et culturels a fermé. Ainsi, et c'est dans l'air du temps, des pratiques artistiques issues d'une histoire perdue et conçues non pas comme un folklore, mais comme un élément d'identification incontournable que l'on ne peut plus occulter, montrent que le moment est venu de passer à autre chose. En 2018, au Festival de Marseille, Serge-Aimé Koulibaly, danseur, a produit cette immense épopée qui fera bientôt partie de l'inconscient collectif mondial et pas qu'africain, longtemps remis au placard et fermé à clé. L'histoire de Sundiata Keita sur une scène connue et vue du grand public. Mais, et la stratégie est fine, on y voit des acteurs et des danseurs issus de toutes origines dans le monde. Et lorsque le chorégraphe s'adresse à son public à la fin, c'est pour lui expliquer que cette histoire est notre histoire à tous, car elle fait partie de notre patrimoine pour l'humanité et pas seulement africaine. Serge-Aimé Koulibaly, Felwine Sarr, musicien économiste, Rokia Traoré, chanteuse, Dada Massilo et son Carmen, Fela Kuti, dont nous venons d'écouter la musique, des éléments importants parmi tant d'autres, éléments de ce nouvel éveil culturel qui sonne comme un nouvel élan dans notre évolution civilisationnelle. Celle-ci finirait-elle par régner contre les barbaries grâce à la danse et à la musique ? Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, j'en ai fini avec cette série d'émissions sur l'économie africaine. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, vous avez tous les podcasts qui sont sur le site de Radio Galère à l'emplacement Mets de Résistance. Je vais bientôt placer mes résumés, vous pourrez vous y retrouver. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.